Moi, je vais vous parler de la rencontre par touches successives, donc un propos moins construit, mais vous dire un petit peu aussi les auteurs qui m'ont porté pour penser cette question de la rencontre. Bien sûr, Platon, j'y reviendrai, à la fois sur la question de la réminiscence. J'ai écrit effectivement dans le petit texte que nous avons fait paraître dans Libération que la rencontre réussit ce défi très particulier de mêler l'inédit et la réminiscence. Donc effectivement la rencontre avec l'inconnu et en même temps avec le déjà familier. Et donc je reviendrai sur cette question de la réminiscence, bien sûr avec le banquet, avec Aristophane. Mais vous dire aussi quelque chose de Barthes, parce que c'est discours d'un fragment amoureux et c'est absolument nécessaire pour comprendre ce qu'est à la fois le leurre sur lequel repose l'amour, en tout cas on peut éventuellement le voir ainsi, et en même temps s'il n'y avait pas ce leurre, s'il n'y avait pas ce malentendu, comment aimer ? Donc tout de même, d'une certaine manière, bonne nouvelle parfois que le mensonge ou que le simulacre. Et puis, vous dire quelque chose de Lévinas, bien sûr, de Jean Kelevitch, au sens où il s'agit... Jean Kelevitch disait du courage, il ensemence, hein, ensemencer le hasard. Je pense qu'on pourrait dire la même chose de l'amour, cette fécondité du hasard. Et bien évidemment, la rencontre est ce qui fait surgir la fécondité du hasard. Et puis, voilà, donc toute une première partie sur ces questions-là. Je terminerai sur cette tension qui anime chaque rencontre. La rencontre qui n'a pas eu lieu. Vous savez, quand on voit quelqu'un dans la rue, on se dit, mon Dieu, mais... Puis non, ça n'a pas eu lieu. Bon, voilà. Et en même temps, le fait que, même si ça n'a pas lieu, ça a lieu. Alors, je voudrais dire quelque chose de cette tension-là qui amène toute rencontre, qui est au cœur de toute rencontre. Et puis vous dire également quelque chose de la gradiva avec Freud. Donc ça, c'est une sorte de première partie. Puis une deuxième partie, plus dure, genre on va atterrir, bien sûr avec La Rochefoucauld, donc un discours un peu plus janséniste sur le leurre, exactement, et sur le fait que derrière l'autre, en fait, se cache le même, et pire, se cache moi. C'est vraiment une double peine. Donc, dire quelque chose de cela. Dire quelque chose aussi de la tension assez drôle, à savoir, on ne rencontre que le déjà connu. Oui, mais jusqu'à quel point ? Donc, certes, la prédestination, ça c'est magnifique, c'est presque littéraire. Et puis, il y a ce qui s'appelle aussi le déterminisme social. Et autant on est tout à fait d'accord avec la prédestination, parce qu'on trouve ça magique, autant le déterminisme social qui fait que je ne rencontrerai que du même. C'est quelque chose, peut-être vous en dire quelque chose. Et puis sur, là aussi j'avais terminé dans mon texte, sur la marchandisation de la rencontre, sur le fait qu'aujourd'hui c'est un véritable marché et où le but n'est plus du tout de rencontrer quelqu'un, mais de rencontrer la rencontre. Nouveau personnage de notre vie amoureuse, la rencontre en tant que telle. Bon, voilà, en gros, c'est un petit peu des éléments comme ça et on poursuivra, si vous voulez, dans la discussion. Alors, la première chose que je trouve importante de dire, effectivement, c'est cette rencontre, amoureuse en tout cas, avec le manquant. C'est la question de la réminiscence. Qu'est-ce qui surgit ? Et d'ailleurs, on le sent. C'est très particulier, la rencontre amoureuse, parce qu'à la fois, il y a un phénomène, comme tout à l'heure nous a dit Nicolas Grimaldi, phénomène de plénitude, mais il y a aussi une question de la fatalité. C'est-à-dire, c'est une espèce de plénitude grave. Quand on sait plus tard que l'on a rencontré, d'abord, on aurait pu ne pas le rencontrer, mais le rencontrer, c'est aussi se rappeler le manquant. Et donc, il y a comme un pincement. Et je pense d'ailleurs que aimer, pourquoi aimer est si douloureux ? Parce que sans doute qu'on se souvient au moment où l'on aime, précisément, il y a ce pincement de l'absence possible, de l'absence inaugurale, qui fait qu'il y a toujours eu du manquant, et l'on sait déjà que cet autre, de toute façon, va nous manquer, parce que, de fait, il ne viendra jamais combler ce qu'il doit combler, puisque c'est une béance. Et en même temps, il y a ce mélange aussi de paix, parce qu'enfin, je l'ai rencontré, et donc peut-être qu'il va combler. Donc, il y a toujours cette plénitude, au sens où il y a un simulacre de l'unité, et en même temps, il y a cette douleur qui fait qu'il y aura toujours ce pincement de l'absence. Et d'une certaine manière, ce qui sous-tend toute rencontre amoureuse, c'est l'inquiétude. En tout cas, c'est une proposition. C'est le fait que nous sommes toujours en attente dans le fait même de la rencontre, comme si on était en vigilance totale, et qui fait d'ailleurs qu'on aura grand plaisir ensuite, par la suite, à re-raconter la rencontre, comme d'une certaine manière, comme un baume, hein, pour venir, on se passe ce baume et on se souvient de cette rencontre, et tout ça qui n'existe plus, qui n'est plus là, mais c'est pas grave, la rencontre fait, ça aussi c'est quelque chose de fantastique de la rencontre amoureuse, c'est qu'elle fait espace-temps. C'est un temps qui fait espace. Voilà, c'est un temps pour nous, mais c'est un espace pour nous. En tout cas, c'est ce que l'on ressent tout d'un coup quand on se dit tout d'un coup qu'il y a une rencontre, qu'il y a une rencontre amoureuse. On se le dit bien évidemment après coup, et je vais revenir avec Barthes sur cette question-là. Alors je cite Barthes d'abord pour entendre un peu la musique. « Je ne tombe jamais amoureux que je ne l'ai désiré. » Bon, voilà, déjà. Alors il faudrait... C'est-à-dire que vous ne rencontrez pas si vous n'avez pas désiré rencontrer. Vous n'aimez pas si vous n'avez pas désiré aimer. Et ça, c'est très important, et on le disait tout à l'heure en amont de cette rencontre, c'est que ça se prépare, une rencontre. C'est quelque chose où, de fait, par l'attente, nous construisons déjà la rencontre. Et ce qui est toute la problématique... Je mélange un peu mes parties, mais c'est toute la problématique d'Ulysse, avec quand Jean Kelevitch en fait le personnage de la nostalgie. C'est que pourquoi Ulysse, l'Odyssée, d'une certaine manière, pourquoi Ulysse erre? Parce que précisément, il ne peut pas rencontrer. Pourquoi? Parce qu'il est nostalgique. Il veut retourner dans un endroit, et ce qui fait qu'à chaque rencontre, et Dieu sait s'il rencontre du monde quand même, Ulysse, eh bien, en fait, il ne rencontre pas, parce qu'il est comme déporté à chaque fois par sa nostalgie, qui fait qu'il ne peut pas être à l'instant présent et vivre cette rencontre comme étant véritablement pleine. Alors, il rencontre, bien sûr, mais il y a cette nostalgie qui fait que, d'une certaine manière, les nostalgiques ne sont jamais dans la possibilité de véritablement rencontrer, alors l'amour peut-être, mais rencontrer l'événement, ce qui surgit. Je ne tombe jamais amoureux que je ne l'ai désiré. Et bien évidemment, toujours je cherche des yeux qui aimaient. Ça aussi. C'est-à-dire, d'une certaine manière, voilà, la spontanéité. Et comme disait Pasteur, il faut être un esprit préparé. Hein. Bon, de fait. Donc, si vous voulez aimer, il faut être en fait totalement prêt à saisir le moindre signe pour commencer l'histoire tout seul. Même s'il n'est pas encore là, c'est pas grave, on commence, on tricote, et on est déjà amoureux avant même de rencontrer celui qu'on va aimer. Et Barthes continue, voilà, « La scène initiale au cours de laquelle j'ai été ravie, je ne fais que la reconstituer, c'est un après-coup, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. » Il poursuit, l'antithèse de cette rencontre, qu'est-ce que ça va être? Ça va être, dit-il, la suite de la rencontre. Alors ça, en revanche, c'est beaucoup plus désastreux. Je cite Barthes, « C'est une longue traînée de souffrances, blessures, angoisses, détresse, ressentiments, désespoir, embarras, et il faut en plus penser que là, ce n'est pas des synonymes. » Je ne sais pas si vous voyez, c'est-à-dire qu'ils ne se répètent pas en disant chaque mot différent. « L'embarras n'est pas le désespoir, qui n'est pas le ressentiment, qui n'est pas la détresse. » Bienvenue dans ces pièges qui se referment sur soi. Et ça, ça va être effectivement l'après-coup qui constitue encore plus la beauté de l'instant vu la suite qui se présage au moment de la rencontre. Alors, en revanche, qu'est-ce qui se joue dans la rencontre? Il se joue ma propre élection. Et là aussi, je cite Barthes, « Je suis comme un joueur dont la chance ne se dément pas. » C'est assez rare, ça, quand on se sent l'élu. L'élu, quand précisément la rencontre fait que tout d'un coup... Oh, j'ai sens à être ici, mais mieux que j'ai sens à être ici, l'ici est fait pour moi. Ce qui est quand même là une chose tout à fait intéressante. Et puis la rencontre, bien évidemment, c'est tout ce jeu autour de la découverte de mon autre. Formulation très particulière. Alors, mon autre, on voit très bien, et alors, je cite Barthes, c'est fantastique, alors peut-être que vous avez aussi expérimenté ça. À chaque instant de la rencontre, je découvre dans l'autre un autre moi-même. Vous aimez ceci ? Oh, moi aussi. Vous n'aimez pas ça ? Oh, moi non plus. Bon, mais vous savez que ça marche aussi dans l'autre sens, c'est pour ça que c'est magnifique le leur, c'est « Oh, tu te rends compte, il n'aime rien de ce que j'aime ». Ça, c'est dans la rencontre, on trouve ça fantastique. Et puis après, on se dit que quand même, on aurait dû faire plus attention. Mais c'est fantastique, cette capacité de la rencontre à véritablement dire « Mais mon Dieu, c'est magnifique, la différence est parfaite, hein. Elle est, même la différence, c'est du même. C'était la différence dont j'avais besoin pour exister. » Et puis, dernier point avec Barthes, et qui renvoie à quelque chose que l'on connaît bien avec Montaigne et la Boétie, parce que c'était lui, parce que c'était moi, hein, le fait que l'autre est mon bien et mon savoir, moi seul le connais, le fait exister dans sa vérité. Quiconque n'est pas moi le méconnaît, inversement, l'autre me fonde en vérité, ce n'est qu'avec l'autre que je me sens moi-même. Et de fait, la rencontre a cette valeur suprême de me donner accès à mon propre être. Et ça, c'est, je crois d'ailleurs, c'est ce que nous cherchons à chaque fois dans la rencontre, c'est dans cette déstabilisation profonde, profondément, une forme de stabilité, un instant, un peu de temps à l'état pur, comme aurait dit Proust. Alors ça, c'était un premier point. Deuxième point, c'est la question du commencement. Qu'est-ce qui commence dans une rencontre ? Et comment ça me paraît être l'amont de beaucoup de choses, l'amont de la connaissance, l'amont de l'éthique. Mais avant ça, revenir à Jean Kelevitch sur la question de ensemencer le hasard. Et en fait, comment, vous avez dit tout à l'heure, briser la continuité du temps. Vous savez qu'il y a, on va dire, trois grandes conceptions du temps. Vous avez le temps comme chronos, linéarité, le temps qui dure, etc. Bon. Vous avez le temps comme aion, c'est-à-dire l'éternité. Bon. Ce qui précisément va au-delà de la limite du référentiel du temps historique. Et puis vous avez, et c'est d'une certaine manière le temps de la rencontre, le kairos, c'est-à-dire le temps de l'occasion divine, c'est-à-dire comment, à l'intérieur d'une continuité, voire de quelque chose de morose, comment je fais commencement, comment je crée la disruption qui va faire commencement, qui va faire histoire. Et d'ailleurs, on dit l'histoire a commencé à ce moment-là. Et c'est une des définitions du courage par Jean Kelevitch, mais c'est bien évidemment, de manière plus archétypale, ce que nous essayons de faire tous pour être au monde. C'est-à-dire, à un moment donné, hein, on en a parlé cet après-midi avec les élèves, tenter de rencontrer le réel, faire émerger, être une puissance d'émergence. L'amour, la rencontre, est par excellence une puissance d'émergence. Donc, ça, c'est dit bien évidemment excellemment par Jean Kelevitch. Quand j'ai dit tout à l'heure la rencontre comme amont de la connaissance, effectivement il n'y a pas de connaissance sans accueil de cette connaissance, sans le fait d'être prêt à rencontrer quelque chose. Si vous n'êtes pas prêt à rencontrer, vous ne connaîtrez jamais rien. D'ailleurs, c'est comme Bachelard dit, voilà, connaître, naître avec, et ça, c'est connaître. Bon, pour le dire autrement, vous avez le tête-à-tête, tout simplement, le texte de Platon, le dialogue de Platon, qui va poser comme amont de la connaissance, comme premier acte de connaissance, notre capacité d'émerveillement, notre capacité d'étonnement, notre capacité de rencontre. Et comment, voilà, et ça renvoie encore à la question de la réminiscence, hein, c'est d'ailleurs chez Platon, connaître, c'est toujours se souvenir. Donc, c'est à la fois rencontrer, mais c'est comme faire une espèce de transgression avec le temps. C'est-à-dire qu'à la fois, vous parcourez les origines, donc vous allez dans cet instant, comme si c'était un trou noir, vous basculez dans le vertige de l'origine, et ça vous rappelle le manquant, et en même temps, vous construisez le futur. Donc c'est vraiment la théorie de la relativité en un instant, c'est Einstein hein, à portée de main par le vécu de la rencontre. Bon, et puis bien évidemment c'est la vérité de l'intelligence, l'intelligare, faire lien, hein, tout simplement, c'est le lien entre eros et connaissance, et donc tout savoir est d'abord une rencontre. Mais là aussi, chez Lévinas, la rencontre, l'éthique, c'est l'amont de toute connaissance. L'éthique est une épistémologie chez Lévinas. Et c'est bien évidemment la question du visage de l'autre, dans la continuité de Buber. Je m'accomplis au contact du tu, toute vie véritable est rencontre, au commencement est la relation. Et je cite Lévinas, « Toute pensée est subordonnée à la relation éthique, à l'infiniment autre en autrui et à l'infiniment autre dont j'ai nostalgie. Derrière la venue de l'humain, il y a déjà la vigilance à autrui. Le moi transcendantal dans sa nudité vient du réveil par et pour autrui. » Donc c'est ça qui surgit dans la rencontre, c'est ce réveil par l'autre. Ce visage, là aussi, vous avez tous fait cette expérience. D'ailleurs, la rencontre, ça ne pourrait être que du regard. Hein? C'est-à-dire que, bien évidemment, la question du corps, elle est primordiale dans la rencontre. Mais tout de même, c'est un corps assez disparaissant. C'est une histoire, c'est leurs yeux se rencontrèrent chez Flaubert et chez ailleurs. C'est le motif de la littérature. Mais pourquoi le regard? Parce que, tout simplement, c'est la fenêtre de l'âme. Donc c'est soudainement comme s'il y avait un suspens, une grâce, un état de grâce. D'ailleurs, Jean Kelevitch dit « il n'y a pas de grâce sans état de grâce ». Et cet état de grâce, c'est la prédisposition à la rencontre. Et d'ailleurs, vous voyez, comme il suffit de, on peut passer sa vie à ne pas rencontrer du moment qu'on a une prédisposition à la rencontre. En fait, la rencontre est toujours là, même si elle ne se dit pas de cette façon-là. Alors, pour terminer ce premier temps, juste le fait que dans chaque rencontre, on l'a dit, il y a cette question du leurre, de la déception, d'avoir pris l'autre pour un autre. Oui, et en même temps, mon Dieu, merci, parce que s'il n'y avait pas l'heure, il n'y aurait peut-être pas rencontre. Je cite Baudelaire sur cette idée de la rencontre qui n'a pas eu lieu. C'est dans les fleurs du mal, une passante, un éclair, puis la nuit, fugitive beauté dont le regard m'a fait soudainement renaître, ne te verrai-je plus que dans l'éternité. Voilà, c'est-à-dire que parfois il suffit d'une espérance de rencontre. Alors vous me direz, en analyse on dit, bon, lâchez un petit peu la fantasmatique, mais en même temps, si elle vous tient cette espérance de rencontre, après tout, pourquoi pas. Alors, pour l'autre, parce que je vois le temps qui tourne, juste vous dire quelque chose de La Rochefoucauld, puisque là, on redescend sur Terre, si j'ose dire. C'est la morale janséniste, avec le fait que derrière l'autre, il y a le même, et derrière le même, il y a le moi. Ce que les hommes nomment amour, amitié, c'est bien sûr dans les maximes, c'est de l'amour propre déguisé. Il y a des gens qui n'auraient jamais été amoureux s'ils n'avaient jamais entendu parler d'amour. Oui, c'est tout à fait pertinent. Et en même temps, tout de même, j'espère que dans l'amour, il y a un phénomène de don qui fait qu'on ne connaît pas intégralement l'histoire au début de la dite histoire. Vous dire aussi quelque chose de la marchandisation de l'amour. Et puis, juste avant, j'avais dit que je parlerais de la Gradiva, puisque c'est un texte donc de Freud en 1903. La Gradiva compte quoi? Elle compte tout simplement l'histoire d'un archéologue qui tombe amoureux d'un bas-relief et qui ensuite n'aura de cesse de chercher l'incarnation de ce bas-relief. Parce que tout simplement ce bas-relief est véritablement l'allégorie magistrale de cette idée qu'il a de la femme, etc. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un petit peu tout dans cette histoire, puisque finalement il va aller à Pompéi pour chercher cette Gradiva, et puis finalement il voit une femme, il se dit « mon Dieu, mais c'est elle ?» Et en fait, bien évidemment, ce n'est pas elle, c'est Zoé. Donc c'est Zoé, c'est pas la Gradiva, mais la conduite amoureuse de Zoé sera d'une certaine manière de se déguiser en cet autre qui l'avait précédé, en cet autre, pour précisément être aimé et pour faire que l'amour se passe. Alors, je pose cette question, qui est que peut-être, sur cette question du leurre, nous, pour faire perdurer l'amour, sans doute, nous nous déguisons aussi en cet autre tant espéré par notre amant, pour faire perdurer, je veux dire par là qu'il n'y a pas simplement qu'une supercherie, il y a comme une espèce aussi de générosité pour ne pas faire venir trop tôt la déception, parce que d'une certaine manière, Zoé se déguisant en Gradiva, eh bien, elle parviendra à guérir Harold de sa pathologie. Donc, pour dire que cette histoire du masque n'est pas simplement qu'une supercherie. Et puis pour terminer, voilà sur la marchandisation. Vous faites, moi j'étais, alors pourquoi je vous raconte ça? Parce que je suis psychanalyste et voilà, ne pas rencontrer est un grand mal qui vraiment construit la grande névrose d'aujourd'hui. Encore une fois, quand c'est de la névrose, tout va bien, mais c'est vrai que les patients très souvent pleurent leur incapacité de rencontrer. Et on m'expliquait dernièrement, alors peut-être que vous êtes habitué à ces outils, moi je ne suis pas habitué, mais l'application, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais enfin bref, une application de rencontre, comment tu dis ? Tinder, voilà, Tinder, tu as tout à fait raison. Et c'est fantastique parce que, alors c'est une application qui n'existe que sur téléphone, m'a-t-on dit, très très important. Parce que d'abord, le geste, le soufflet, entre guillemets, est très intéressant, puisque les photos défilent et vous balayez comme ça, d'un revers de main, alors vous pensez que c'est éventuellement une caresse, mais enfin c'est plutôt une claque que vous mettez dans la tête de celui qui est là, et vous balayez comme ça en disant non, non, pas intéressant, pas intéressant, et paf, tout d'un coup, oui, celui-là, tiens, tiens, ça serait intéressant de le rencontrer. Et en fait, c'est vrai que c'est un marché aujourd'hui, fondamentalement. C'est un marché où tout ce que nous venons de vous raconter n'a absolument pas de prise. Parce qu'il n'y aura pas de récit de cet